Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz, bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Après des tensions autour de l'abattage de 200 bovins dans l'Ariège, après un cas de dermatose nodulaire, les forces de l'ordre ont repris cette nuit le contrôle de la ferme. RMC s'est procuré le jugement qui a prononcé la liquidation de Brandt. La justice n'a pas cru au projet de reprise des salariés. Et Karim Benzema relance le débat sur son retour en équipe de France. Son rêve, participer à la prochaine Coupe du Monde.
Face à face tendu hier entre agriculteurs et forces de l'ordre dans l'Ariège.
Jet de projectiles, gaz lacrymogène, grenade de désencerclement. Hier, aux abords de cette ferme, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des centaines d'agriculteurs opposés à l'abattage de 200 bovins en raison d'un cas de dermatose nodulaire, maladie contagieuse qui touche ces animaux. Ils jugent cette décision disproportionnée. Les forces de l'ordre ont pu reprendre hier soir le contrôle de cette ferme. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place pour RMC. Alors qu'en est-il ce matin ?
Oui, un blindé de la gendarmerie bloque depuis quelques heures maintenant l'accès à la ferme. Impossible d'y accéder ce matin. Il y a des cordons de gendarmes mobiles juste derrière. La ferme est sous contrôle. Il n'y a plus d'opposants sur place. On va pouvoir entrer ce matin dans la phase 2 de l'opération. Elle va pouvoir débuter avec l'entrée en action des vétérinaires. La préfecture de l'Ariège que j'ai contactée il y a quelques minutes refuse de dire pour l'instant quand cette opération d'abattage va pouvoir débuter. Les services vétérinaires doivent, on le rappelle, endormir 208 vaches, injecter évidemment le fameux produit qui va mettre fin à leur jour. On ne sait pas si les deux éleveurs, les deux propriétaires de la ferme et leurs familles vont pouvoir assister à cette scène qui sera forcément difficile, forcément cruelle.
Jean-Wilfried Forquès en direct de l'Ariège pour RMC.
7h02 et c'est un mélange d'incompréhension et de colère après la liquidation de Brandt.
700 emplois supprimés, la SCOP pourtant soutenue par les salariés et les pouvoirs publics n'a pas suffi. Le gouvernement pointe du doigt les banques accusées de ne pas avoir joué le jeu du patriotisme. Mais Victor Joannin, selon le jugement du tribunal, leur rôle n'est pas le seul à peser dans cette décision.
Oui, le tribunal rappelle d'abord que Brandt était déficitaire depuis plusieurs années dans un marché ultra concurrentiel sans perspective de retour à meilleure fortune. Le plan de financement du projet de SCOP présentait trop d'aléas, peut-on lire dans le jugement. Il reposait en grande partie sur un financement participatif, c'est-à-dire une cagnotte en ligne au succès incertain, ainsi que sur la vente hypothétique de biens immobiliers. Le porteur du projet, un entrepreneur sans aucune expérience dans l'électroménager, n'avait pas non plus réussi à trouver un partenaire industriel vital pour former des synergies. Le tribunal estime même que la SCOP aurait pu conduire à une mise en danger supplémentaire des salariés tenus de placer plus de 1000 euros de leur denier personnel dans l'aventure. En somme, un projet voué à l'échec, un simple prolongement artificiel d'une activité condamnée, selon ses mots.
Et on en parle à 7h10 avec François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Le sort de 1000 salariés d'IKKS fixé aujourd'hui. Le tribunal de Paris se prononce sur la reprise du groupe de prêt-à-porter, groupe placé en redressement judiciaire début octobre. Une offre semble tenir la corde. La moitié des emplois pourrait être sauvée si elle est choisie.
7h04 sur RMC. La mère de Mathis réclame une loi pour interdire le protoxyde d'azote.
Ouais, son fils de 19 ans a perdu la vie à début novembre, percuté par un automobiliste sous protoxyde d'azote. Cette mère de famille a été reçue hier par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nunes, pour leur demander d'interdire ce gaz au volant.
On a évoqué la possibilité de considérer la substance comme une drogue, en fait, hein, et prendre en considération que les gens qui ont une détention sur eux de protoxyde puissent, par exemple, se faire confisquer le véhicule ou être interpellés, chose qu'aujourd'hui est impossible. Donc il y a vraiment des pistes. On a vraiment senti que nos ministres étaient vraiment sensibilisés sur le sujet et que les choses allaient vraiment bouger. Et ce qui est important pour nous et pour les autres.
J'y reviendrai d'ailleurs à 8h30 avec mon invité dans le face-à-face, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il fera aussi le premier bilan de ces fouilles XXL qui ont lieu en ce moment même dans les prisons de France.
RMC 7h05, un élan de solidarité se dessine pour Sonia héroïne du 13 novembre 2015. Elle avait dénoncé le terroriste Abdelhamid Abaoud et évité un nouvel attentat à la Défense. Son témoignage, déjà raconté en exclusivité sur RMC début 2016, est maintenant mis en lumière dans un documentaire sur France Télévisions. Une cagnotte en ligne a été lancée. Guillaume Bié, elle cumule déjà plus de 37 000 euros.
Oui, cagnotte lancée par l'association de victimes Life for Paris pour aider Sonia qui vit toujours sous protection avec une autre identité et qui ne peut pas réclamer de l'aide, souligne le président de l'association Arthur Desnouveaux.
Le paradoxe de Sonia, c'est que c'est une héroïne bien vivante mais complètement désincarnée pour des raisons de sécurité. Et donc finalement, participer à cette cagnotte, c'est une manière de lui rendre hommage et de lui dire « on sait ce que vous avez fait Sonia ». On veut vous en remercier et vous incarner quelque chose de très beau dans toute cette horreur du 13 novembre. Et donc, donner à cette cagnotte, c'est vraiment faire un geste citoyen.
D'autant plus que Sonia en a besoin, souligne son avocate, maître Samia Maktouf.
Elle est surtout face à des difficultés administratives, financières, de santé aussi. Tout ce qu'elle espère, Sonia, c'est de pouvoir, une fois que ses lourdes dettes seront payées, c'est de pouvoir faire du caritatif, ce qu'elle faisait avant cette vie qu'elle mène.
À travers son avocate, Sonia remercie déjà tous les donateurs. La cagnotte, elle, reste ouverte pour une durée indéterminée.
Jean-Pierre Berger, nouveau maire de Saint-Étienne. Il était jusqu'ici premier adjoint et remplace Gaël Perdriau, condamné à 4 ans de prison et à l'inéligibilité dans l'affaire du chantage à la sextape. Le nouveau maire a été désigné lors d'un conseil municipal extraordinaire. Il dirigera la ville jusqu'aux élections municipales de mars. Karim Benzema lui fait un appel du pied à Didier Deschamps. Le Ballon d'Or 2022 qui avait pris sa retraite internationale il y a près de 3 ans ouvre la porte à un retour en équipe de France dans une interview donnée à l'équipe. Il rêve tout simplement du mondial, Aurélien Tiercin.
Karim Benzema en équipe de France, c'est normalement de l'histoire ancienne, l'attaquant ayant annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Sans compter ses relations très compliquées avec le sélectionneur Didier Deschamps, le sujet de sa blessure pendant ce mondial qatarien et son renvoi des Bleus étant toujours sensible. Mais à nos confrères de l'équipe, Benzema affirme ne pas vouloir polémiquer et laisse entendre qu'en cas d'appel pour la Coupe du Monde 2026 l'été prochain, il pourrait répondre « Oui, il dit aimer gagner, aimer les trophées, alors jouer une Coupe du Monde, ne se refuse pas. La question d'un retour post-mondial lui est aussi posée, sous les ordres possiblement de Zinedine Zidane, pressenti comme futur coach des Bleus. L'attaquant de 37 ans qui joue en Arabie Saoudite avoue avoir toujours une relation exceptionnelle avec Zidane, et il reste flou en disant « là, on ne sait pas du tout ce qui se passera ».
Et l'OL conforte sa première place en Ligue Europa après sa victoire hier soir 2-1. Les Lyonnais assurent au moins leur place en barrage. Le LOSC et Nice n'ont pas brillé. Défaite des Lillois 1-0 face aux Young Boys de Berne. Nice s'est incliné sur le même score face à Braga.
C'était le journal de Clément Langouet sur RMC.